chers auditeurs, auditrices, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices des médias partenaires de Studio Kalangou, bonsoir, bienvenue au forum de la presse de Studio Kalangou, le rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants qui ont marqué l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention s'articulent d'abord autour de la décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de dénoncer l'accord militaire du 11 juillet 2022 liant le Niger au Bénin, couplé à la décision des États-Unis de repositionner leurs troupes au Niger. Ensuite, il sera question de la double attaque meurtrière intervenue le 8 septembre au Nord Mali. Enfin, le bilan évolutif des inondations enregistrées au Niger, donné par la Direction générale de la protection civile. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Hassan Boukara, il est journaliste à la radio Alternative, bonsoir.
Bonsoir.
Issa Madougou, journaliste indépendant, bonsoir.
Bonsoir.
Memouna Diado, journaliste indépendante également, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. Par un communiqué en date du 12 septembre, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a dénoncé l'accord militaire du 11 juillet 2022 liant le Niger au Bénin. Un accord signé suite aux liens ancestraux qui lient le peuple du Niger au peuple frère du Bénin, devenu institutionnel, a déclaré le CNSP. Le CNSP justifie cette décision par le fait que la République du Bénin ait autorisé le stationnement des militaires et matériel de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CEDEAO contre le Niger, et ce malgré l'accord de coopération militaire existant entre les deux pays. Alors, je commence par vous, monsieur Hassan Boukara. Que pensez-vous de cette décision du CNSP malgré les liens forts qui lient nos deux pays?
Merci beaucoup. Alors, je considère que cette décision elle est tout à fait logique. Hein. Mmh. Je pense que quand elle avait été signée,
en 2022,
voilà, ça a été fait afin de permettre aux deux pays de collaborer dans le cadre de la lutte contre les groupes armés qui interviennent non seulement au Niger, mais aussi dans le nord du Bénin. Donc, c'était un problème commun aux deux pays. Ils ont estimé qu'il devait y avoir une entente qui permette, par exemple, d'échanger les renseignements, de faciliter un peu les survols aériens. Donc, c'était des facilités afin de se mettre ensemble et de lutter contre l'adversaire commun. Mais aujourd'hui, par le hasard des choses, le Bénin et le Niger se retrouvent dans deux camps opposés.
Le Bénin qui décide de participer à la lutte.
Voilà, le Bénin, avec d'autres pays membres de la CEDEAO, font partie de ce groupe qui fait planer la menace d'une intervention militaire au Niger. Donc le Niger se trouve être la victime. Donc finalement, de façon pratique, ce lien n'est plus valable.
Un lien ancestral dont il parle.
Oui, c'est dommage qu'on arrive à ça. Je pense qu'on a déjà fait l'expérience de tenter de lutter contre ces groupes armés en mettant de côté le Mali, en mettant de côté le Burkina. Après les événements du 26 juillet, on est revenu à ça pour dire qu'on a besoin de ces deux pays pour nous battre. Je pense qu'on a aussi besoin du Bénin. Et c'est vraiment dommage qu'on arrive à cela. Parce que, quelle que soit la crise qu'on vit aujourd'hui au Niger, il ne faut pas oublier que la menace réelle aujourd'hui contre nos États, c'est bien le terrorisme. Ce sont ces groupes armés qui sont là. Regardez certains pays comme le Mali, ils sont quasiment menacés dans leur existence même. Donc, quelle que soit la crise qu'on vit aujourd'hui autour du coup d'État survenu au Niger, n'oublions pas que la lutte contre le terrorisme est quand même la menace la plus sérieuse qu'il y a pour l'instant dans nos États. Donc, c'est vraiment dommage qu'on arrive. Et moi, j'ai la conviction qu'on finira, quand cette crise sera passée, qu'on finira par sentir la nécessité de reparler de nouveau avec le Bénin. Et donc peut-être à la demande du Niger ou du Bénin, on peut de nouveau se retrouver à mettre ensemble nos efforts pour lutter contre l'adversaire qui est commun. C'est ce que je pense vraiment.
Mais Mouna, que pensez-vous vraiment de la position même du Niger et du Bénin, autant pour moi, à s'allier à certains pays pour vraiment lutter contre le Niger, d'où vraiment cette décision du CNSP?
Bon, moi, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que vu la position adoptée par le Bénin pour l'envoi d'une armée ici au Niger. Mmh. Je pense que les autorités, les nouvelles autorités nigériennes ne peuvent que prendre une décision pareille. Mmh. Parce que la frontière la plus proche, Bénin a quand même une frontière plus proche que le Niger. Donc, et quand on te dit qu'il y a déjà des armées qui sont positionnées sur cette frontière,
donc ça en dit trop.
Ça veut dire qu'au début, on pensait que le Bénin allait reculer dans sa position, allait faire volte-face, en tout cas dans cette position d'aller en guerre avec le Niger. Mais finalement, avec tout ce qu'on a vu avec les communautés béninoises qui sont ici au Niger, qui sont sorties avec des déclarations et tout, ça n'a pas de soutien aux nouvelles autorités, ça n'a pas en tout cas changé grand chose à cette décision donc que tient mordicus le président Talon. Oui, le président Talon, parce que moi je me dis que c'est un seul individu en tout cas qui est dans cette situation et qui veut aller en guerre avec un pays souverain, ça ne peut pas se faire. Donc moi je me dis que vraiment c'est salutaire ce que les nouvelles autorités viennent de faire. Et comme l'a dit Armi, prochainement, peut-être que...
Bien que ça soit salutaire, est-ce qu'il n'y aurait pas des conséquences sur les deux pays?
Mais les conséquences, déjà, il y a des conséquences. Voilà. Déjà, il y a des conséquences. Dans les deux pays ont déjà des conséquences. Parce que quand vous regardez, déjà avec cette situation de frontières fermées, c'est des conséquences. Nous, on paye et on voit que on n'arrive pas à avoir certains produits qui sont justement qui viennent justement du Bénin. Et aujourd'hui, les Béninois, ne serait-ce que le corridor, ce n'est pas occupé parce que c'est les Nigériens en fait qui font vivre le corridor béninois, qu'on le veuille ou non.
Oui.
Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi beaucoup de coopérations qui se sont vues. Finalement au statu quo,
malheureusement
pour le Bénin et malheureusement également pour le Niger. Mais celui qui a beaucoup à perdre, c'est plutôt le Bénin qui a beaucoup à perdre aujourd'hui. C'est ça le grand problème. Et je suis sûre que peut-être prochainement, quand il y aura, comme l'a dit mon prédécesseur, mon collègue, ça veut dire que tout simplement, peut-être que les relations pourront être revues. Mais ça serait encore difficile, hein, parce que celui qui va en guerre avec ton pays, ça serait difficile hein, de renier encore, de renouer encore la confiance, de donner encore une autre confiance à ce pays. Voilà.
Alors vous, Issa Amadougou, que pensez-vous vraiment de cette décision? Selon le CNSP, une correspondance diplomatique même sera adressée aux autorités béninoises conformément à la procédure à la matière. Alors quelle sera la suite selon vous?
Selon le communiqué, et c'est dans l'ordre de l'accord, dans l'esprit de l'accord, qu'il faut d'abord dénoncer et maintenant respecter le délai qui met fin carrément à cet accord. Mais ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, vous savez, les autorités béninoises actuelles sont amnésiques, peut-être.
Sont amnésiques selon vous, hein?
Oui, selon moi. Oui. Pourquoi? Parce que le Bénin est l'un des pays où nous avons tisser des relations qui ont été institutionnalisées depuis des années. Vous avez souvenance de l'OSOBN?
Oui, l'OSOBN.
Voilà. Le Niger, son premier projet de rail, c'était avec le Bénin. Le Niger a des populations qui se retrouvent, les mêmes familles.
Avec Malanville,
jusqu'à Boïkon.
Oui.
Jusqu'à Boïkon, vous allez trouver les mêmes familles. Donc aujourd'hui, ce qui se passe entre nos deux pays, ce ne sont pas les peuples.
C'est dommage, comme l'a dit Hassani.
C'est des gouvernants aujourd'hui qui ont leurs propres intérêts, parce que jusque-là, moi, je n'ai pas vu aussi un soutien fort par rapport, ou même sur le territoire béninois, par rapport à la position du gouvernement béninois. Sauf quelques énergumènes qui mangent dans la main du Talon, qui essayent de justifier sur certains plateaux de télé la position, mais quand même, dans la majorité, quand on entend les sorties, tout le monde fustige le comportement de Talon, parce que certains sont allés très loin pour dire si Talon ose même, eux, ils vont entrer en sécession. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que les relations qu'ils ont dépassent aujourd'hui les intérêts que Macron les amène à miroiter pour dire que non, il faut aller dans cette dynamique parce que nous, on va vous garantir ceci et cela. Moi, je pense qu'on ne devrait pas arriver à cela, mais aujourd'hui, et ça a été dit, hein, Vous savez, depuis 2020, l'attaque meurtrière du 4 décembre 2020 au niveau du parc W de Niamey, où un de nos valeureux agents des eaux de forêt est toujours resté otage pendant que le Niger n'a rien fait en ce temps depuis 2020.
La zone
oui, le Niger continue à libérer d'autres ressortissants, mais tout en oubliant les Nigériens. Vous savez, c'est depuis cette date que aussi la partie du parc du côté béninois a commencé à avoir des attaques. Donc, les deux pays ont jugé nécessaire de mutualiser leurs efforts en matière de renseignement, en matière aussi d'appui logistique pour pouvoir contrecarrer la menace. Parce que le parc, vous savez, quand ces gens-là s'installent dans le passé, ce n'est pas partout qu'on peut pénétrer dans le parc.
Mais avec donc, cette décision, tout est remis en
cause. Oui, tout est remis en cause, mais quand même, chacun doit prendre des dispositions. Aujourd'hui, les autorités actuelles du Niger sont en train de prendre toutes les dispositions pour se positionner par rapport à la position géographique du Bénin. Donc, c'est le Bénin que les autorités béninoises aujourd'hui qui sont en train de mettre les deux populations dans cette situation. Non seulement par d'abord la fermeture de la frontière, tout en oubliant l'impact, pensant que, parce que Talon a pris ses décisions à coup de tête, il a oublié que ça va impacter également sur le Niger.
Voilà.
Mais aujourd'hui, son économie est en train d'être impactée. Parce que quand vous entendez les échos. Quand vous entendez même les échos du coût de la vie, mais les gens sont exaspérés. Ils n'arrivent même pas à comprendre pourquoi aujourd'hui, à cause de ce. Le Tinubu qui était là, il s'est tué. Donc aujourd'hui, on comprend que dans cette dynamique, chacun essaie de protéger ses intérêts.
Vivement donc la sortie.
Oui, on le souhaite. On ne voulait pas en venir là, par rapport à cette situation. Mais malheureusement, on espère qu'il y ait vraiment un retour à la raison des deux parties.
On l'espère bien. Et toujours sur la situation qui prévaut au Niger, une délégation malienne conduite par le ministre d'État de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maiga, était à Niamey cette semaine. L'objectif est le raffermissement des relations entre le Mali et le Niger face aux défis sécuritaires. La délégation a été reçue par le premier ministre Ali Mahamane Lamine Zène avant d'être reçue également par le président Abdourahmane Tchiani. Alors, selon vous, Monsieur Hassan Boukara, quels sont selon vous les enjeux de ces concertations permanentes entre les deux pays?
Je pense que le Niger, le Burkina et le Mali ont engagé au lendemain du coup d'État du 26 juillet des discussions, donc j'allais dire tripartites, puisque c'est trois pays qui sont confrontés au même problème, mais aussi que l'histoire récente rapproche. L'histoire récente rapproche, on a partout des régimes militaires. Apparemment, ils se parlent entre eux et ils se comprennent. Au début, avec le Niger, c'était vraiment difficile, puisque le régime nigérien était très critique vis-à-vis de nos voisins du Burkina et du Mali. Aujourd'hui, ils s'entendent entre eux, puisque c'est des militaires partout, on a des régimes militaires. Et ils ont montré déjà la volonté de continuer à faire des consultations. Je pense même qu'on parle de secrétariat permanent entre ces trois pays pour échanger. Bon, je pense qu'il y a au moins un point important pour les trois pays, c'est la lutte contre la sécurité. On a une frontière commune, cette zone de trois frontières qui est difficile à gérer aujourd'hui. Regardez, avec la fermeture de la frontière béninoise pour faire transiter des vivres via le Burkina vers le Niger, il faut
tout un
convoi pour le sécuriser. Ça montre qu'il y a vraiment une nécessité pour les trois pays, au moins de travailler sur la sécurité. Et je pense que le destin commun aux trois régimes va se jouer sur la sécurité. Je pense
c'est
que
la question principale.
Au Mali, au Burkina comme au Niger, l'armée a toujours mis en avant la mauvaise réaction des anciens régimes, la mauvaise gestion de la question sécuritaire pour reprendre le pouvoir. Et donc, là où ces trois pouvoirs sont attendus, c'est justement dans les succès, n'est-ce pas, dans cette lutte pour la sécurité des trois pays. S'il n'y a pas de succès, vous verrez que là où les gens applaudissent, il peut aussi y avoir des critiques. Et donc, je pense que ces trois régimes ont intérêt à montrer qu'ils vont vraiment se concerter, faire preuve d'ingéniosité et de trouver des réponses fortes pour impacter cette insécurité qui fait souffrir les populations du Niger, du Mali comme du Burkina. Je pense qu'ils ont intérêt à se concerter, à discuter ensemble, voir quelle stratégie développer pour les trois pays. Je pense qu'ils ont intérêt à le faire. Et donc, pour moi, qu'il y ait des consultations régulières, c'est tout à fait dans l'ordre des choses.
C'est tout à fait normal, Maimouna Diadou. Alors, les défis qui se posent à ces pays sont énormes et comment vraiment ils doivent y faire face?
Ce que Hassan Boukhar vient de dire, je ne peux qu'augmenter un tout petit peu là-dessus, c'est de mutualiser leurs forces, de faire en sorte que ces trois pays, là où les populations les attendent, c'est justement sur la question de sécurité. C'est la sécurité aujourd'hui qui doivent être leur bataille. En tout cas, ensemble, ils doivent coopérer efficacement, parce que nous avons vu la coopération comment ça a été les années antérieures. Donc maintenant, ce sont des militaires qui gèrent ces pays, et je pense que les militaires connaissent mieux, comme on dit, le terrain, et ça sera une occasion de démontrer, de faire le changement, de montrer qu'il y a un petit changement, mais pas un petit changement, mais même si c'est un grand changement, montrer quand même à ces populations que vraiment la bataille ou bien le combat, voilà à quoi nous en sommes et à quoi nous voulons arriver. Ramener ces populations, surtout les sécuriser et les ramener sur leur propre terrain, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Le plus grand défi.
Alors Issa Madougou, un mot peut-être sur ces concertations permanentes entre le Mali, le Niger, le Burkina, face à ces défis qui se posent à eux.
C'est que ils ont dit, puisque il faut continuer seulement les concertations afin de vraiment de créer une synergie d'action qui va relever un peu les défis sécuritaires, développement, et aussi on a besoin de cet atout majeur aujourd'hui dans la zone du Leptako-Gourma, surtout la cohésion sociale.
Effectivement.
Parce que cette situation d'insécurité a vraiment fragilisé la cohésion communautaire dans la zone. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez dans le département de Bankilari, ce qui s'est passé tout récemment avec l'afflux des PDI à Bankilari, ce ne sont pas des groupes armés terroristes, mais ce sont plutôt des conflits communautaires qui font en sorte que des villages entiers se déplacent pour se retrouver. Donc, vous voyez que vraiment le vivre ensemble a été fragilisé. Donc il faudrait également penser à cela, trouver des mécanismes, trouver des hommes de valeur qui peuvent aujourd'hui faire en sorte que cette harmonie qui caractérisait nos campagnes puisse être une réalité une fois de plus.
Pour clôturer ce chapitre, les États-Unis ont décidé de repositionner leurs troupes au Niger en raison des récents événements politiques dans le pays. Suite au coup d'État survenu le 26 juillet, le Pentagone a annoncé qu'il prenait des mesures par précaution. Le département de la défense américaine déplace donc une partie de son personnel et de ses ressources de la base aérienne 101 située à Niamey vers la base aérienne 201 à Agadez. Les États-Unis ont environ 1100 soldats stationnés au Niger en dans des opérations contre des groupes djihadistes dans la région. Je reste toujours avec vous, M. Issa Madougou. Alors, que doit-on comprendre à travers cette décision des États-Unis?
Vous savez, depuis que les événements du 26 juillet ont aujourd'hui mis le Niger sous le feu des projecteurs, chacun de ces puissances, à part ce discours va-t-en-guerre de Macron, les Américains essaient de se repositionner. Ils savent qu'ils n'ont pas intérêt aujourd'hui à aller à l'encontre des autorités. Donc, eux, ils prennent les dispositions. Mais s'ils disent qu'ils veulent... C'est stratégique. Oui. Aujourd'hui, tout le monde, beaucoup d'experts qui sont du domaine des militaires, ont dit qu'à la suite de cette annonce, que voilà ce qu'ils craignaient. Ce sont des experts français qui ont dit, voilà pourquoi eux, ils attiraient l'attention de Macron pour dire, attention, attention. Vous avez signé un accord avec des États. Si les accords les dénoncent, pourquoi aujourd'hui? C'est ce qu'a dit un ancien agent de renseignement militaire français. Il a dit, mais pourquoi on ne voit pas aujourd'hui un sitting face aux Américains? Pourquoi on n'a pas aujourd'hui
la position?
Parce que les Américains ont réellement joué leur rôle, même si aujourd'hui l'ensemble des forces et la présence de ces forces étrangères est critiquée. Même si c'est critiqué, mais quand même les gens ont de la retenue par rapport aux Américains. Demandez à Agadez, aujourd'hui, quand on avait arrêté la migration, mais qui a un peu absorbé même ces gens-là. Ce sont les Américains qui les ont recrutés. Les Américains, dans leur présence, ont été plus bénéfiques au Niger. Ils allaient être plus bénéfiques sinon à un article bizarre qui existe entre l'accord de défense au Niger qui dit qu'aucun partenaire ne peut traiter directement avec le Niger sans l'avis de la France. Sinon, ils allaient plus nous aider avec leurs drones dans
justement,
la lutte.
Justement, même l'armée américaine a annoncé la reprise de ses missions antiterroristes au Niger après une interruption de plus d'un mois. Une bonne nouvelle, Hassan Boukar?
En tout cas, je pense que, comme Issa l'a dit, les Américains ont une position assez claire depuis les événements. Il faut rappeler que tout le monde a condamné le coup d'État. Bon, on peut dire à certains égards que c'est une condamnation de principe. Tout le monde a condamné, mais pour les Américains, il était clair que c'était tout sauf une intervention militaire. Donc, ils sont restés fidèles à cette position-là. Aujourd'hui, ils veulent reprendre petit à petit leurs activités au Niger. Parce que pour eux, selon tous les spécialistes, s'ils considèrent qu'il y a eu un coup d'État, donc une rupture par la force de l'ordre démocratique, leur législation les condamnait à quitter. Or, ils ne sont pas prêts à quitter ce pays, de par tout l'enjeu stratégique qui représente le Niger. Je pense qu'ils ont été peut-être plus réalistes que les Français, c'est ce qu'on est tenté de dire. Il y a cette position batanguée très forte de la France. Face à ça, les Américains, c'est du non, c'est du tout sauf la force armée. Et ce qui fait qu'eux, ils ont aujourd'hui la possibilité de discuter avec le CNSP, peut-être de faire avancer certaines choses. Donc voilà, donc, je pense que toutes leurs décisions sont logiques à la position qu'ils ont eue dès le départ, en disant pour nous, c'était tout par la négociation et tout sauf les armes.
Nous passons au deuxième sujet de ce forum de la presse. Le jeudi 8 septembre, deux attaques majeures ont eu lieu dans le nord du Mali, faisant au total 64 morts, dont 49 civils et 15 militaires. La première attaque a ciblé un bateau de transport fluvial dénommé le bateau Tombouctou, naviguant sous le fleuve Niger. La seconde a visé une base militaire à Bomba, située dans la région de Gao. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une alliance djihadiste liée à Al-Qaïda. En réponse donc, l'armée malienne a réussi à neutraliser environ 50 terroristes. Suite à ces tragédies, le gouvernement malien a décrété un deuil national de 3 jours. Face donc à la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du Mali, ces derniers jours, Sédi Kaba, journaliste et spécialiste des questions sécuritaires au Sahel, a donné son point de vue au studio Kalongo. Il a été joint par Tanane Foudey Ahmed.
Les affrontements fratricides entre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, l'autre mouvement rival, se sont calmés ces derniers temps. Et chacun des mouvements a décidé de concentrer ses attaques contre les forces armées maliennes. Donc cette accalmie de la guerre fratricide a permis à l'EIGS particulièrement de cibler les forces armées maliennes. À cela est venu s'ajouter les tensions entre l'État malien et les mouvements signataires des accords d'Alger. Puisque comme vous savez, il y a eu un incident dans la région de Ber et les groupes signataires aussi ont décidé, non pas d'entrer en confrontation, mais d'augmenter leur niveau de vigilance avec ces risques de confrontation. Vous voyez, les forces armées maliennes sont sur plusieurs fronts à la fois et ce n'est pas toujours aisé de surveiller tous les fronts en même temps.
C'était là donc l'analyse de Sédi Kaba, journaliste et spécialiste des questions sécuritaires au Sahel. Alors Memouna, après écoute, pensez-vous vraiment qu'on assiste à un retour de la violence dans le Nord Mali avec ces attaques?
Le Nord Mali n'a peut-être avec que... C'est vrai, on a constaté une accalmie dans le Nord Mali, mais avec ces attaques, ça veut dire que c'est l'insécurité qui revient, hein, qui revient, parce que comme l'a dit Sédic, le Mali, les autorités sont partagées sur plusieurs fronts. Donc il y a des fronts où ils n'ont pas en fait la même mise sur ça. Mais je pense que c'est ce que je suis en train de dire, c'est que l'État, les autorités maliennes n'ont pas vraiment véritablement la même mise sur cette région-là pour pouvoir contrecarrer certaines choses. Les mouvements, les déplacements de ces djihadistes, de ces terroristes, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est peut-être, hein, c'est vraiment de de renforcer la sécurité de ce côté, non seulement par la voie aérienne, parce que ceux qui ont frappé, en tout cas qui ont fait plus de morts avec 64, dont je ne sais pas,
64 morts,
oui. 64 morts,
donc c'est 49 civils.
49 civils, hein, 49 énorme. Civils, c'est énorme pour un pays, c'est énorme.
D'accord.
Et bon, il faut aussi s'en réjouir qu'ils ont pu quand même neutraliser 50 djihadistes de ce côté.
Alors, Issa Madougou, à vous d'autres précisions sur ces attaques du Mali?
Nous pouvons que tout d'abord présenter nos condoléances à la nation sœur du Mali, prompt rétablissement aux blessés et souhaiter vivement le retour de la paix entre les filles et les fils de ce pays, frère. Parce que ce qui est en train de se passer, le plus souvent, ce ne sont pas des gens qui sont venus ailleurs. Donc, la situation du Mali, il faut que les gens aussi essayent d'en faire des analyses en profondeur. La situation du Mali est tellement compliquée que ce n'est pas avec un bâton magique que les colonels vont. Non, le Mali, d'abord, le Mali fait face depuis plusieurs années, depuis le déclenchement des événements de 2012, à une prolifération alarmante des armes à feu. Au Mali, sur
avec
le territoire.
Des groupes djihadistes.
Non, avant d'arriver à la formation des groupes djihadistes là. Au Mali, vous savez que vous pouvez vous protéger. Facile, c'est quoi? C'est Pia Ouata qui est facile que l'accessibilité ici dans la ville de Niamey. C'est de la même façon que dans le nord du Mali que vous pouvez vous procurer une arme. Les gens pensent que c'est à coup de... Si beaucoup de gens qui ont des armes, et avoir une arme sans aussi avoir une conscience, vraiment, c'est très dangereux. Alors, ce qui est en train de se passer, il faut se dire que il y a les forces, comme c'est dit Kabadi, il y a les forces déjà, comme on appelle, qui sont là, les forces djihadistes, le GISM, le groupe de soutien à l'islam, il y a l'État islamique au Grand Sahara. Donc, qui concentre plus ses activités vers la frontière du Niger, dans la zone du Liptako-Gourma. Mais quand vous voyez dans le nord, une partie de la région du Gao, de Kidal, Tombouctou, jusque dans le centre du Mali, c'est le GIM qui regroupe Yagalawi et Amadou Koumfa. Donc, ce qui est en train de se passer, on a vu une riposte, mais les gens ne peuvent pas. C'est vrai, l'armée malienne ne peut faire ce qu'elle veut. Parce que, vous savez, c'est aujourd'hui, ils sont aussi dans une préparation de la reprise des camps détenus par l'AMINUSMA. Donc, c'est un défi majeur pour les autorités maliennes. C'est pas facile, mais je pense qu'avec le courage et l'abnégation, la détermination des populations maliennes pour accompagner leurs autorités, je pense qu'ensemble, ils peuvent trouver des solutions. Parce que quand je vois aussi l'attaque de Bourem, revendiqué par la coordination des mouvements de l'Azawad. Moi, je pense qu'entre Maliens, il faudrait, même si l'accord d'Alger piétine à être concrétisé, moi, je pense qu'ils devront se faire. Aujourd'hui, quand vous voyez les morts, ce sont des fils de Mali, du Mali qui se sont entretués. Aujourd'hui, quelle fierté ils ont. Et on voit encore pire, c'est d'autres, aujourd'hui, qui prennent le message pour parler de d'épuration ethnique au Mali. Vous voyez que ça, c'est dangereux quand des gens se mêlent dans vos situations, dans vos problèmes. C'est comme le Niger aujourd'hui. On allait régler notre problème. Mais on dirait que c'est la France le Niger est un département de la France. Donc c'est ça. Aujourd'hui, seuls les Maliens peuvent s'asseoir entre eux, se regarder et qu'il n'y ait pas de divergence. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, tout le problème qui est en train de se poser, c'est le positionnement des FAMA dans les camps. Parce que c'est à Ber que le problème a commencé. Aussitôt, et l'AMINUSMA, donc, sur un certain nombre de plans, quand on essaie d'analyser les faits, on sent que d'une part aussi, les accusations portées par les autorités maliennes sur l'AMINUSMA, ils sont parfaitement d'accord parce que
Pourquoi alors selon vous?
Parce que la passation devrait se faire avec l'État. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que des gens se sentent dans le droit d'être des représentants de l'État et
ça,
de pouvoir
ça ne devrait
prendre.
Pas donc...
Non, mais c'est ça que moi j'ai dit. Aujourd'hui, seuls les Maliens ont la recette de ce problème. Il ne faut pas qu'il y ait de l'ingérence. Et aujourd'hui, il faut que tout le monde se concentre à ce que cette désinformation qui est en train de... Parce que dans cette insécurité que nous vivons dans nos trois pays, en fait, c'est la désinformation même qui fait en sorte que la situation s'amplifie. Parce qu'on voit des gens qui s'accaparent de l'actualité, mais avec un traitement tendancieux, juste pour mêler des communautés, juste pour dire que ce pays est un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, ou bien pour condamner le pays. Moi, je pense que c'est aux filles et aux fils de ces nations-là de s'asseoir et de discuter, et qu'ensemble, moi, je pense qu'ils peuvent relever la tête.
Ce qui se passe alors au Mali est inexplicable, selon Issa. Alors vous, Hassan Boukara, quelle est votre analyse de cette situation même au Mali, avec ce retour des attaques?
Je pense que depuis 10 ans, la situation, c'est vrai, la couronne de haut et de bas.
Et de bas, oui.
Mais c'est un problème qui dure depuis 10 ans et l'effondrement de la Libye. Donc tout le monde sait comment les choses se passent. On a un pays qui est très vaste, comme le Niger, avec une multitude de groupes qui interviennent sur le territoire. Les uns interviennent à gauche, les autres interviennent à droite. Donc, pour l'armée, c'est difficile de maîtriser l'ensemble du terrain. C'est un territoire extrêmement vaste. Aujourd'hui, s'il s'agit de moyens militaires, l'armée malienne est plus armée que ce groupe-là.
Voilà.
Sauf que, comme on le dit, c'est une guerre asymétrique. C'est toujours facile de détruire que de construire. Des gens qui se confondent dans la communauté, qui cachent des armes, ils peuvent facilement sortir.
C'est comme l'a dit, voilà. Ça, c'est entre eux.
Voilà, tirer des coups de feu, endeuiller des familles, tuer des gens, et puis se cacher, se disparaître dans la nature. Je pense que ce qu'on a fait depuis 10 ans dans ce conflit, c'est aussi de privilégier la dimension militaire. Il est vraiment temps, en même temps qu'il faut répondre aux attaques militaires par une réponse qui cherche à détruire ces groupes armés, il faut aussi faire un travail de développement, de sensibilisation sur le vivre ensemble. Issa l'a évoqué, arriver à retravailler les communautés.
Je pense qu'on ces groupes djihadistes qui naissent un peu partout, même dans cette zone.
Je pense que c'est parfois des choses qui sont liées à la gouvernance. Pour le cas du Mali, vous avez des groupes qui étaient en territoire libyen, notamment les gens qui sont autour de Kidal, du Menela. Il y en a quand même qui étaient utilisés par le colonel Kadhafi. Quand il est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des armes, ils sont revenus. Vous avez tout ce groupe algérien. Rappelez-vous que l'Algérie a connu une guerre civile pendant des années. Le groupe islamique armé, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, etc. Tous ces groupes algériens, il y en a qui ont repris base au Mali, dans le nord Mali, etc. Vous avez Al-Qaïda. Vous avez tous ces groupes qui se sont installés parce que à la lumière de la guerre en Libye, ils se sont armés, ils se sont installés parce que c'est déjà une zone d'instabilité. À l'image de ce qu'on a connu dans la région d'Agadez, le nord Mali a été depuis l'indépendance une zone où vous avez le conflit entre l'armée régulière et certaines communautés vivant dans cette zone. Il y a donc
Et malheureusement, cela va impacter la zone des trois frontières, tout normalement.
Oui. Donc, à mon avis, il y a vraiment ce problème. Alors, je pense qu'aujourd'hui, une des choses qu'on peut attendre, tout de suite, on parlait de concertation régulière entre le Burkina, le Niger et le Mali. Je pense que les trois pays peuvent réfléchir davantage en tirant les leçons de l'échec du G5 Sahel, de toutes les initiatives qu'il y a eu, réfléchir davantage leur réponse commune à ces groupes-là et intégrer cette fois-ci un acteur qui a cruellement manqué à la lutte contre le terrorisme, savoir l'Algérie.
L'Algérie.
Au début de ce conflit, l'Algérie était ce pays qui disait aux autres, ne faisons pas intervenir des groupes qui sont hors de notre espace. L'Algérie, je me rappelle lors d'une rencontre qu'ils ont organisée à Bamako, l'Algérie avait proposé.
Donc vous pensez
Mali,
vraiment que l'Algérie est un pays qui peut
participer? Je suis convaincu
que
l'intervention de l'Algérie peut impacter positivement cette lutte contre la sécurité. D'abord parce que l'Algérie est une puissance militaire. L'Algérie a l'expérience de la lutte contre ces groupes qu'il connaît bien. Et c'est pour ça que je pense que l'Algérie a beaucoup manqué à cette lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, que chacun de ces pays qui ont considéré à un moment que le pays qui voulait totalement contrôler cette lutte, c'était la France, parce que la France n'a pas voulu que l'Algérie soit là-dedans. Et quand la France est là, l'Algérie ne vient pas.
Voilà. Aujourd'hui,
aujourd'hui que la France, par la force des choses, intervient moins. À mon avis, c'est vraiment le moment de relancer cette lutte-là en donnant à l'Algérie un vrai leadership dans cette lutte. Et je pense que l'Algérie a les moyens d'aider ces trois pays vraiment à mener cette lutte. Mais encore une fois, même avec l'intervention de l'Algérie, n'oublions pas que le tout militaire, le tout sécuritaire n'est pas la réponse. Il y a forcément un travail pour un peu plus de cohésion, n'est-ce pas, pour que les communautés comprennent
elles-mêmes
aussi que s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas une armée qui joue la justice, qui aide chacun à vivre en paix, personne ne sera en sécurité.
Effectivement.
Ou tout le monde est en sécurité, ou personne ne le sera. Et donc là, à mon avis, il y a tout un travail à faire autour de ces pays. Mais encore une fois, j'insiste, je pense qu'une des clés, c'est l'Algérie.
Merci bien, nous allons observer une petite pause. Dernier sujet de ce forum, 123 056 personnes sinistrées, c'est la situation des inondations à la date du 12 septembre 2023 au Niger, selon un rapport de la Direction générale de la protection civile. Le rapport de la protection civile détaille que les pluies diluviennes ont fait près de 16 000 ménages sinistrés et occasionné 41 décès, 12 195 maisons effondrées, 58 classes endommagées dans 101 communes. Alors, Maimouna, quelle analyse vous suscite à ces chiffres annoncés par la DGCP? Ce sont des chiffres qui évoluent chaque jour d'ailleurs.
Oui, c'est des chiffres, tu l'as bien dit, qui évoluent chaque jour. Mmh. Et c'est vraiment, on voit qu'au lieu que ça ça baisse, mais ça ne baisse pas là, ça continue. Mmh. Et dans des communes où personnellement, à chaque fois quand la saison pluvieuse, avant même que la saison pluvieuse s'installe, ce sont des communautés qui sont interpellées pour leur dire faites très attention. L'année passée, voilà ce qui a eu lieu par-ci, par-là. Donc, méfiez-vous et ne partez pas encore retourner.
Mais malheureusement, dans ces zones inondables.
Donc, je sais pas, il y a eu, où est-ce que ça a manqué pour que ces populations se rendent compte que c'est pour leur bien-être, en fait. Mm-hmm. C'est pas quelque chose, mais c'est vrai. C'est quand tu es attaché à ta terre, tu crois plutôt, tu n'as pas envie de l'abandonner. Mm-hmm. Mais il y a des risques qui te permettent d'abandonner ces lieux. Mmh. Et ces risques-là, c'est les inondations. Mmh. Parce que tu ne peux plus continuer à habiter dans un endroit où c'est déjà, on sait que déjà, il y a inondation. Quand il y aura inondation, ça sera inondé.
Surtout qu'on sait que chaque année, le Niger enregistre des inondations. Voilà, on fait,
il y a des sensibilisations qui sont faites. Mmh. Il y a en tout cas des statistiques qui sont données à chaque fois, mais les populations continuent à faire la sourde oreille. Et là, je me dis que nous avons parlé également de cette histoire de cimenterie, permettre à ce que le ciment nigérien soit vendu moins cher,
Pour permettre à ces populations aussi de construire.
Et je me rappelle aussi, on leur a donné des parcelles. Voilà. C'est de les accompagner.
Effectivement.
Mais les accompagner comment? Tu peux bien sûr leur donner de l'argent. Mm-hmm. Mais quand les matériaux qui te permettent de construire définitivement ta maison coûtent cher, mais tu n'auras pas cet espoir de construire. Mm-hmm. Mais tu reviens encore après et puis tu te dis que peut-être cette année, c'est Dieu qui a amené. Peut-être que l'année prochaine, ça se n'est pas le cas. Donc, nous sommes dans cette situation-là. Et on a parlé d'urbanisation. Il faut songer à urbaniser les villes. C'est mieux, en fait. Il y a vraiment des endroits, aujourd'hui, qu'on peut faire l'aménagement agro-silvopastoral, pourquoi pas, ou bien aménager pour la culture du riz, pourquoi pas. Mais c'est des choses comme ça qu'il faut prévoir. Dédommager ces populations-là, leur donner un endroit fixe où il n'y aura pas, qui a été étudié en permanence, pour que ces populations puissent y vivre. Mais donner des terrains, des parcelles vides, leur dire pour d'aller s'installer avec zéro franc d'accompagnement. Mais comment est-ce que ces populations vont retourner là-bas, s'il vous plaît?
Issa Madougou, bien que ces statistiques ne soient pas aussi alarmantes, vous, selon vous, qu'est-ce qui expliquerait la recrudescence d'inondations, même ici au Niger?
Moi, je pense que quand on parle d'inondation aussi, il ne faut pas qu'on perde de vue un élément, un facteur déterminant, le climat.
Oui, le changement climatique, oui.
Parce qu'aujourd'hui, à quoi nous assistons? Des fortes pluies accompagnées de vents violents. Souvent, qu'est-ce que vous regardez? Moi, je l'ai vu tout récemment dans un village ici sur la route de Wallam. Je n'ai jamais pensé qu'il y a des eaux de ruissellement qui peuvent passer. C'est-à-dire la pluie diluvienne, tellement qu'il y a eu beaucoup d'eau. C'est-à-dire que c'est des nouvelles voies de ruissellement qui ont été creusées par l'eau. Donc, souvent, ce n'est pas automatiquement dans les zones inondables que ça soit. Parce qu'il y a les vents violents qui sont là, accompagnés des pluies diluviennes. Aujourd'hui, ce dont nous faisons face plus, c'est cette mutation climatique. Quand vous voyez aujourd'hui, vous prenez la période de août à 12 septembre, on a eu vraiment... une période où précipitations qui ont été constatées se passer par là.
Avec quelques petites pauses.
Oui. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement, il ne suffit pas d'être seulement dans un endroit à risque pour être victime.
Et
mais
selon
souvent,
la météo même, les précipitations ne sont pas encore à leur fin. Hein.
Mais oui, mais quand vous voyez au regard même d'aujourd'hui, quand vous regardez un peu partout, en Afrique, même ici en Afrique, on voit partout que ça c'est vraiment ce phénomène climatique qui est là. Mais c'est à nos États aujourd'hui de donner les moyens, par exemple, à toutes ces structures-là qui sont censées là, travailler dans la prise en charge des catastrophes, de leur donner les moyens nécessaires afin d'abord d'affiner leur stratégie de prévention, maintenant d'avoir les moyens nécessaires de prise en charge et maintenant de pouvoir contrer d'éventuelles inondations pour que aujourd'hui, même s'il y a inondation, le site est là, les gens ont été déplacés, mais l'eau qui reste stagnée toute l'année, que l'eau là puisse être utilisée ça à bon escient. Parce que c'est vrai, c'est une catastrophe qui est là.
Des jardins,
oui, c'est une catastrophe qui est là, mais il faut aussi tirer bénéfice de cette catastrophe. Moi, je pense que c'est à nos États. Mais comme ces derniers temps, nous sommes dans une situation de défi majeur aujourd'hui depuis les événements du 26. Donc, moi, je pense que cela ne devrait pas perdre de vue que aujourd'hui l'État devrait continuer également à donner les moyens à toutes ces structures et qu'il y ait vraiment une certaine coordination. Parce qu'à un moment donné, on ne sent pas cette coordination de la prise en charge des victimes. Il y a un ministère qui est là. On voit qu'il y a toutes les autres structures aussi qui sont rattachées
au
la primature. Donc, on est tenté de se poser la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un conflit d'intérêts? Pourquoi n'essayez pas aujourd'hui de regrouper toutes ces structures-là sous la bannière du ministère pour qu'on puisse avoir une coordination réfléchie, efficiente et efficace aujourd'hui dans la prévention et également dans la prise en charge des victimes des catastrophes.
D'accord. Pour terminer, Hassan Boukar, les conséquences socio-économiques de ces inondations sont énormes et sont vraiment ressenties par ces populations. Que doit-on faire face donc à la recrudescence de ces inondations pour atténuer les dégâts enregistrés chaque année ici au Niger?
Je pense que, comme Issa l'a dit, il faut déjà penser le problème de façon globale. On est dans une ère de changement climatique. Là, on le vit au Niger, mais on le vit un peu partout. Regardez aujourd'hui cette catastrophe qui se passe en Libye.
Oui,
4000, 5000, peut-être 6000 victimes, juste par des barrages qui cèdent et tout ça. Donc, c'est un phénomène global. Rappelez-vous de ces incendies qui ont ravagé des territoires entiers dans certaines régions du monde, au Canada, en Europe, le tremblement de terre. Donc, voilà, nous sommes dans un... Il faut penser globalement ce problème, à mon avis, et à tout ce qui est lié au changement climatique. Et lorsqu'on est dans une situation comme ça, il faut de la prévention. La prévention, c'est par exemple dans la conception des villes. Il faut vraiment imaginer... Il faut imaginer les espaces qui sont inondables, sur lesquels il ne faut pas du tout construire. Il faut donc jouer sur la prévention.
D'accord.
Je suis d'accord avec Issa. On a un ministère de gestion des catastrophes qui a à peine le dixième de ses prérogatives. Une bonne partie de ce qu'il doit faire est concentrée à la primature ou dans d'autres institutions. Alors, si on veut créer un ministère, il faut lui donner la plénitude de ses fonctions pour que ce ministère puisse jouer sur la prévention.
Le temps est contre nous. Il faut également une prise de conscience de la population.
La population aussi, je pense que là, il faut faire la sensibilisation. Mais à mon avis, il faut surtout faire la prévention.
D'accord.
Tous les problèmes qu'on vit à Niamey, on peut les éviter s'il y a la prévention.
Avec la prévention.
Il faut définir des terrains sur lesquels les municipalités doivent sévir pour que personne ne vienne habiter, parce qu'on sait que c'est inondable. Ces phénomènes vont arriver régulièrement.
Et c'est tout naturel, alors. Merci bien. C'est ici donc que prend fin le rendez-vous de ce forum de la presse du vendredi 15 septembre 2023. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, chers invités, d'être venus. Nous étions en compagnie de Maimouna Diado, journaliste indépendante. Hassan Boukara, journaliste à la radio Alternative, Issa Madougou, journaliste indépendant. Merci donc d'être venu. N'oubliez pas, le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivies de tous à la FADA. Et les samedis et dimanches, à partir de 18h15, les forums en langue Hausa et Zerma. La technique est assurée par Amina Hassan, la régie vidéo Issa Lawali. Je suis Nafissa Adam Sirfou à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.